Chapitre 33. S'accrocher l'un à l'autre. On peut donner bien des choses à ceux que l'on aime. Des paroles, un repos, du plaisir. Tu m'as donné le plus précieux de tout, le manque. Il m'était impossible de me passer de toi. Même quand je te voyais, tu me manquais encore. Christian Bobin. Lundi 27 septembre, Paris, Hôpital européen Marie Curie. Au grand complet, l'équipe chirurgicale entourait le professeur Jean-Baptiste Clouzot. À l'aide d'une scie, celui-ci ouvrit le sternum de Billy dans le sens de la longueur depuis sa partie basse en remontant jusque sous son menton. Puis il accéda au péricarde pour examiner les artères coronariennes et mettre en place une circulation extracorporelle en injectant une solution fortement dosée en potassium qui provoqua l'arrêt cardiaque. Une pompe se substitua donc au cœur et un oxygénateur au poumon. Chaque fois qu'il pratiquait une opération à cœur ouvert, Jean-Baptiste Clouzot éprouvait la même fascination devant cet organe presque magique qui nous relie à la vie. 100 000 battements par jour, 36 millions par an, plus de 3 milliards en une seule vie. Tout ça pour cette petite pompe sanguinolente qui paraissait si fragile. Il ouvrit d'abord l'oreillette droite, puis la gauche et procéda à l'ablation des deux tumeurs, excisant chaque fois la base d'implantation pour empêcher les récidives. La tumeur fibreuse avait effectivement une taille peu commune. Une vraie chance qu'on l'ait détectée à temps. Par précaution, il explora les cavités cardiaques et les ventricules à la recherche d'autres myxomes, mais il n'en repéra aucun. Une fois l'intervention terminée, il rebrancha le cœur sur l'aorte, ventila les poumons, plaça les drains pour évacuer le sang et referma le sternum à l'aide de fils d'acier. « Vite fait, bien fait », pensa-t-il en enlevant ses gants et en sortant de la salle d'opération. Corée du Sud, Université féminine d'Iwa. Le soleil se couchait sur Séoul. Comme tous les soirs à l'heure de pointe, les rues de la capitale coréenne étaient paralysées par la circulation. Isle Park sortit de la station de métro, fit quelques pas sur le trottoir et traversa au passage clouté pour rejoindre le campus. Nichée au cœur du quartier étudiant, l'université d'Iwa comptait plus de 20 000 élèves et était l'une des meilleures et des plus élitistes du pays. Isle descendit l'immense escalier en pente douce, débouchant sur ce que tout le monde appelait « la faille », un espace tout en verre composé de deux bâtiments qui se faisaient face, de part et d'autre d'une promenade en béton. Elle s'engagea dans l'entrée principale de ce paquebot translucide, dont le rez-de-chaussée, avec ses boutiques et ses cafétérias, ressemblait à un centre commercial ultra-moderne. Elle prit l'ascenseur pour gagner les étages supérieurs qui abritaient les salles de cours, un théâtre, un cinéma, une salle de sport, mais surtout, une grande bibliothèque ouverte 24 heures sur 24. Elle s'arrêta au distributeur pour s'acheter un thé vert, puis trouva une place au fond de la pièce. Ici, on était vraiment au 21e siècle. Chaque table se présentait sous la forme d'un poste de travail équipé d'un ordinateur donnant un accès immédiat aux ouvrages de la bibliothèque qui avaient tous été numérisés. Isle se massa les paupières. Elle tenait à peine debout. Elle était rentrée l'avant-veille de son voyage d'études et était déjà surchargée de travail. Elle passa une bonne partie de la soirée à faire des fiches et à réviser ses cours, lançant des coups d'œil incessants à l'écran de son téléphone, tressaillant chaque fois que l'appareil vibrait pour signaler l'arrivée d'un mail ou d'un SMS qui n'était jamais celui qu'elle espérait. Elle tremblait, elle avait froid, elle devenait folle. Pourquoi Jimbo ne lui donnait-il plus aucun signe de vie? Est-ce qu'elle s'était fait avoir? Elle qui était d'ordinaire si méfiante et distante avec les gens. Il était près de minuit. La bibliothèque se vidait peu à peu, mais un certain nombre d'étudiants y restaient jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. C'était comme ça ici. Isle sortit de son sac le livre de Tom Boyd qu'elle avait trouvé dans le salon de thé en Italie. Elle tourna les pages jusqu'à tomber sur le cliché de Luca Bartoletti et de son amie Stella, en scooter dans les rues de Rome lorsqu'ils avaient 20 ans. « Ne t'arrête jamais de m'aimer », avait écrit la jeune Italienne. C'était exactement ce qu'elle avait envie de dire à Jimbo. Elle sortit une paire de ciseaux de sa trousse d'écolière ainsi qu'un tube de glue et, à son tour, utilisa les pages vierges pour y coller les plus belles photos prises pendant les 4 semaines de bonheur qu'elle avait vécues avec lui. un bouquet de souvenirs enrichi des tickets des spectacles et des expositions qu'ils avaient partagées. La rétrospective Tim Burton au MoMA, la comédie musicale Chicago à l'Ambassador Theatre, ainsi que tous les films qu'il lui avait fait découvrir à la cinémathèque de la NYU. Donnie Darko, Requiem for Dream, Brazil. Elle travailla toute la nuit en y mettant tout son cœur. Au petit matin, les yeux rougis et la tête en vrac, elle s'arrêta au bureau de poste installé dans le bâtiment administratif pour acheter une enveloppe à bulles et y glisser le livre en cuir bleu nuit qu'elle envoya aux États-Unis. Paris, hôpital européen Marie Curie, salle de réanimation cardiaque. Billy se réveillait progressivement. Encore sous respirateur, elle ne pouvait pas parler à cause de la sonde d'intubation qui lui entravait la trachée.
« Nous vous enlèverons ça dans les heures qui viennent », assura Clouseau.
Il vérifia les petites électrodes qu'il avait placées sur sa poitrine pour stimuler le cœur en cas de ralentissement de la fréquence cardiaque.
« Aucun problème de ce côté-là », dit-il.
Je souris à Billy. Elle me répondit par un clin d'œil. Tout allait bien. Mercredi 29 septembre, New York, Greenwich Village.
« Je suis à la bourre !»
se plaignit la fille en se rhabillant.
« Tu m'avais dit que tu avais programmé ton réveil !»
Elle lissa sa jupe, enfila ses escarpins et boutonna son chemisier. Le jeune homme dans le lit la regardait avec un sourire amusé.
« Si tu veux m'appeler, tu as mon numéro !»
dit-elle en ouvrant la porte de la chambre.
« Ok, Christy !»«
Mon prénom, c'est Carrie, pauvre type !»
James Limbo, dit Jimbo, sourit de toutes ses dents. Il se leva et s'étira sans chercher ni à s'excuser, ni à retenir sa compagne d'une nuit. Il sortit de la pièce pour aller se préparer un petit déjeuner.
« Merde, plus de café » râla-t-il en ouvrant le placard de la cuisine.
Il regarda par la fenêtre de l'appartement en brownstone et aperçut Carrie Machin Chose qui remontait la rue pour rejoindre Houston Street.
« Un bon coup. » Enfin, moyen, quoi. 6/10,
jugea-t-il en faisant la moue. Pas assez en tout cas pour remettre ça. La porte de l'appartement s'ouvrit, et Jonathan, son colocataire, entra avec deux gobelets de café achetés au coffee shop du coin de la rue.
« J'ai croisé le livreur du PS en bas de l'immeuble, »
dit-il en désignant du menton le paquet qu'il portait sous le bras.
« Merci, »
dit Jimbo en attrapant l'enveloppe et son double café latte au caramel.
« Tu me dois $3.75 !»
réclama Jonathan.
« Plus les 650 du loyer que je t'ai avancé il y a 2 semaines. »«
Ouais, ouais !»
répondit évasivement Jimbo en regardant l'adresse sur l'enveloppe.
« C'est de la part d'Diesel Park, n'est-ce pas ?»«
De quoi je me mêle ?»
demanda-t-il en ouvrant le paquet contenant le livre de Tom Boyd.
« Bizarre, ce truc !»
songea-t-il en feuilletant le roman et en avisant les photos collées par ses différents propriétaires.
« Je sais bien que tu te fous de mon avis, » reprit Jonathan, « mais laisse-moi te dire une chose. Tu ne te comportes pas bien avec Isul. »
« Je me fous effectivement de ton avis, » confirma Jimbo en buvant une gorgée de café.
« Elle a encore laissé des messages sur le répondeur. Elle s'inquiète pour toi. Si tu veux rompre avec elle, prends au moins le temps de le lui annoncer proprement. Pourquoi tu es comme ça avec les femmes? C'est quoi ton problème au juste ?»«
Mon problème, c'est que la vie est courte. » et qu'on va tous crever. Ça te suffit comme explication ?
Non, je vois pas le rapport.
Je veux devenir réalisateur, Jonathan. Ma vie, ce sont les films et pas autre chose. Tu sais ce que disait Truffaut ? Le cinéma est plus important que la vie.
Eh bien, pour moi, c'est pareil. Je ne veux pas d'attache, pas de marmot, pas de mariage. Tout le monde peut être un bon mari ou un bon père de famille. Mais il n'y a qu'un Quentin Tarantino et qu'un Martin Scorsese. T'as pas la lumière à tous les étages, mon vieux.
Tant pis pour toi si tu ne comprends pas, laisse tomber,
répondit Jimbo en battant en retraite dans la salle de bain. Il prit une douche et s'habilla rapidement.
Bon, je me casse, lança-t-il en attrapant sa besace. J'ai un cours à midi.
C'est ça, et n'oublie pas le loyer.
Trop tard. Il avait claqué la porte. Jimbo avait faim. Il s'acheta chez Mamoun's des falafels en pita qu'il dévora à belles dents sur le trajet de la fac de cinéma. Comme il était un peu en avance, il s'arrêta dans le café qui jouxtait le bâtiment de l'école pour prendre un coca. Au comptoir, il examina de nouveau le livre à la couverture gothique que lui avait offert Isul.
La jeune et jolie coréenne était sexy et intelligente. Ils s'étaient bien amusés tous les deux, mais à présent, elle devenait collante avec ses photos mielleuses. Le livre pourtant l'intriguait. La trilogie des anges, ça lui disait quelque chose. Il réfléchit et se souvint avoir lu dans Variety qu'Hollywood avait acquis les droits du roman et s'apprêtait à en faire un film. Mais pourquoi cet exemplaire était-il dans cet état ? Il se leva de son tabouret pour s'asseoir devant l'un des ordinateurs mis à la disposition des clients. Il tapa quelques mots-clés sur Tom Boyd et tomba sur des milliers de références. Mais en restreignant sa recherche aux 7 derniers jours, il découvrit que quelqu'un avait inondé les forums de discussion en espérant mettre la main sur un exemplaire particulier dont la moitié des pages était vierge. Et cet exemplaire, c'était justement celui qu'il avait dans son sac. Il sortit sur le trottoir tout en ruminant ce qu'il venait de lire. Et c'est alors qu'une idée germa dans son esprit. Greenwich Village, le même jour, fin d'après-midi. Kerouac & Co. Bookseller était une petite librairie de Green Street spécialisée dans l'achat et la vente de livres anciens ou épuisés. En costume noir cintré et cravate sombre, Kenneth Andrews ajouta dans la vitrine un ouvrage qu'il venait d'acquérir lors d'une succession houleuse entre les héritiers d'une vieille collectionneuse. Un exemplaire de Godard Moses, signé par William Faulkner. L'ouvrage avait sa place entre une édition originale de Scott Fitzgerald, un autographe sous verre de Sir Arthur Conan Doyle, l'affiche d'une exposition signée par Andy Warhol et le brouillon d'une chanson de Bob Dylan, écrit au dos d'une note de restaurant. Kenneth Andrews s'occupait de son magasin depuis près de 50 ans. Il avait connu les temps héroïques de la bohème littéraire lorsque, dans les années 1950, le Village était le domaine de la Beat Generation, des poètes et des chanteurs de folk. Mais, avec l'augmentation des loyers, les artistes d'avant-garde s'étaient depuis longtemps exilés vers d'autres quartiers, et les habitants de Greenwich étaient aujourd'hui des gens fortunés, qui lui achetaient ses reliques à prix d'or pour trouver un peu de l'odeur d'un passé qu'il n'avait pas connu. La cloche de la boutique tintinabula, et un jeune homme apparut dans l'encadrement de la porte.
« Bonjour !» fit Jimbo en s'avançant.
Il était déjà venu quelques fois dans la boutique qu'il trouvait pittoresque. Avec sa lumière tamisée, son odeur fanée et ses gravures d'époque, elle lui faisait penser au décor d'un vieux film et lui donnait l'impression d'être dans un monde parallèle, isolé du tumulte de la ville.
« Bonjour !» répondit Andrews. « Que puis-je pour vous ?»
Jimbo posa le livre de Tom Boyd sur le comptoir pour le présenter au libraire.
« Ça vous intéresse ?»
Le vieil homme chaussa ses lunettes et inspecta le roman d'une moue dédaigneuse. Simili-cuir, littérature populaire, défaut de fabrication, sans parler de toutes ces photos qui salopaient l'ensemble. D'après lui, l'ouvrage était bon pour la poubelle. C'est ce qu'il s'apprêtait à répondre à son interlocuteur lorsqu'il se souvint d'un entrefilet qu'il avait lu dans la revue « American Bookseller » à propos de l'édition spéciale de ce best-seller qui avait été intégralement pilonné pour cause de malfaçon. Se pourrait-il que...
« Je vous en offre 90 $, » proposa-t-il en suivant son intuition.
« Vous plaisantez ?» s'offusqua Jimbo. « C'est un exemplaire spécial. Je pourrais en retirer 3 fois plus sur Internet. »«
Eh bien, allez-y alors. Moi, je peux monter jusqu'à 150 $. C'est à prendre ou à laisser. »
« Marché conclu. »
décida Jimbo après un moment de réflexion. Kenneth Andrews attendit que le jeune homme eût quitté le magasin pour retrouver l'article de la revue qui parlait du livre.
« Mauvaise affaire pour Doubleday. Suite à un tirage défectueux, les 100 000 exemplaires de l'édition spéciale du 2e tome de la Trilogie des Anges de l'auteur à succès Tom Boyd ont dû être pilonnés.
« Intéressant, » jugea le vieux libraire. Avec un peu de chance, il avait peut-être mis la main sur un exemplaire unique. Rome, quartier Prati, 30 septembre. Vêtu d'un tablier blanc, Milo servait des arancini, des pitones et des parts de pizza dans un restaurant sicilien de la rue degli Scipioni. Après le départ de Carole, il avait décidé de rester quelques jours à Rome et ce job lui permettait à la fois de payer sa minuscule chambre d'hôtel et de pouvoir manger gratuitement. Il échangeait tous les jours des courriers électroniques avec Tom et, ravi qu'il se soit remis à écrire, il avait repris contact avec Doubleday et divers éditeurs étrangers pour leur dire qu'ils avaient enterré son ami un peu trop tôt
et qu'il y aurait sans doute bientôt un nouveau Tom Boyd dans les librairies.
« C'est mon anniversaire ce soir », lui dit une habituée, une belle brune qui travaillait dans un magasin de chaussures de luxe de la Via Condotti.
« Ravie de l'apprendre. »
Elle croqua dans la boule de riz, abandonnant un peu de rouge à lèvres sur la chapelure.
« J'organise une fête avec des amis dans mon appartement. Si ça vous dit de passer... »
« C'est gentil, mais non. »
Une semaine plus tôt, il ne se serait pas fait prier. Mais depuis ce que lui avait confié Carole, il n'était plus le même. Il avait été bouleversé par le récit de son ami qui lui avait fait découvrir la face cachée des deux personnes qu'il aimait le plus au monde. Tout ça le plongeait dans des sentiments contradictoires. Compassion infinie envers Carole, pour qui il éprouvait un amour encore plus fort. Respect et fierté par rapport au geste de Tom, mais aussi vexation d'avoir été ostracisé pendant si longtemps de leur cercle de confiance. Et surtout regret de n'avoir pas lui-même effectué le sale travail.
Je crois que je vais me laisser tenter par la cassata, indiqua la pulpeuse italienne en désignant le gâteau recouvert de fruits confits.
Milo s'apprêtait à lui en couper une part lorsque son téléphone vibra dans la poche de son jean.
Excusez-moi.
C'était un email de Carole qui tenait en deux mots. Regarde ça. Suivi d'un lien hypertexte. Les mains collantes, il cliqua tant bien que mal sur son écran tactile et atterrit sur un site qui permettait de consulter en ligne le catalogue de libraires professionnels spécialisés dans les livres rares ou d'occasion. Si les informations étaient exactes, une librairie de Greenwich Village venait de mettre en vente le livre qu'il cherchait. Il reçut un SMS de Carole presque dans la foulée. « Rendez-vous à Manhattan ?» et lui répondit du tac au tac. « J'arrive. » Il défit son tablier, l'abandonna sur le comptoir et décampa du restaurant.
« Et mon dessert alors ?»
s'insurgea la cliente.